Chers camarades, chers amis, les dernières semaines ont été marquées par des journées de grève et de manifestations, que ce soit le 10 et 18 septembre ou jeudi dernier. Il s'agissait de montrer notre opposition au budget anti-ouvrier de Bayrou, et plus généralement à toutes les attaques de ceux qui gouvernent contre les travailleurs et les classes populaires. Bayrou s'en est allé, le cornu a fait mine de céder quelques miettes, mais derrière toutes ces manœuvres, tout le monde se rend bien compte, comprend les mêmes et on recommence. C'est la même politique que l'on va tenter de nous imposer. Une politique qui s'attaque encore une fois aux travailleurs, aux chômeurs et aux retraités. Ce sont aussi les services publics qui sont dans le viseur, alors que l'hôpital est à genoux, que l'école ne va pas mieux, partout les besoins sont criants. Tout cela sous le prétexte de réduire les déficits et la dette publique. Ce ne sont pas les classes populaires qui sont responsables de la dette. Les profiteurs, ce sont les grandes fortunes. En 2017, il y avait 39 milliardaires, et ils sont 145 aujourd'hui. Quant à la fortune des 500 plus riches, elle a doublé, atteignant un total cumulé de 1100 milliards d'euros. Les grands actionnaires ont siphonné les caisses de l'État, avec la complicité de Macron et de ses gouvernements successifs. Chaque année, les aides de l'État versées aux entreprises sont estimées à plus de 211 milliards d'euros par an. Une autre estimation indique 270 milliards. L'argent coule tellement à flot pour la bourgeoisie que personne n'est capable de faire le calcul correctement. Il y a un an, après avoir reçu 1 million d'euros de la part des pouvoirs publics, l'usine Valeo de Reims inaugurait une nouvelle ligne de production en grande pompe avec petits fours, préfets et élus locaux. Le maire, Robinet, se félicitait d'avoir préservé l'emploi. Quelques semaines plus tard, le groupe Valeo mettait en place un énième plan de licenciement. Depuis, Reims est comme d'autres sites de nouveau sur la sellette. Quant à la chaîne de production, elle n'a pas fonctionné un seul jour. Oui, les grandes fortunes se sont gavées sous des gouvernements de droite comme de gauche. En 1996, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes recensées par le magazine économique et pro-patronal Challenge équivalait à 6,4% de la richesse du pays. En 2017, c'était 20%. Aujourd'hui, c'est près de 45%. Alors, de l'argent, il y en a. Mais il n'est pas question pour le cornu d'aller le chercher dans les coffres-forts de la bourgeoisie. Leurs fortunes ne seront même pas égratignées par les quelques mesures qui pourraient éventuellement être prises du type de la taxe Zucman. Cela servira seulement à amuser la galerie en disant que tout le monde est mis à contribution et que les travailleurs doivent se résigner à payer leur part. Quelle blague! La gauche et les directions syndicales réclament plus de justice fiscale. Mais la justice fiscale, il ne peut en être question sous le capitalisme. Le travail étant à la source de toute richesse produite, les bénéfices des entreprises ne sont que du vol sur le travail. Alors, vouloir taxer un peu plus les actionnaires ne change rien à l'exploitation salariale que l'on subit au quotidien. Ces propositions de justice fiscale ne visent qu'à tenter de faire accepter le capitalisme, de dire que ce système inique et rapace serait améliorable, qu'on pourrait avoir un capitalisme à visage humain si les gouvernements étaient de gauche. C'est à cela que servent les partis de gauche. Et du côté des directions syndicales, il en est de même. C'est pourquoi tout ce petit monde s'est rendu à l'invitation de Le Cornu pour bablater alors qu'il n'y avait rien à négocier sauf d'accepter de nouveaux reculs. En allant à Matignon, il laissait croire que quelque chose pouvait en sortir. Il désarme ainsi, politiquement, les travailleurs qui leur font confiance. Bon nombre de militants dans les entreprises privées et les secteurs publics se posent des questions sur la stratégie des directions syndicales. Aujourd'hui, aucune autre action, aucun plan de bataille n'est mis en place pour riposter à la hauteur de la lutte de classe féroce que mènent les capitalistes et les gouvernements à leur service. Il faut attendre. Le discours de Le Cornu, comme si on ne savait pas à quoi s'attendre. Et tout porte à croire que les syndicats vont égrener les journées d'action jusqu'à épuiser les plus déterminés, comme ils l'avaient fait pour le mouvement des retraites. Les grèves, telles que les conçoivent ces appareils syndicaux, quand ils sont encore capables d'en concevoir, ce sont des grèves dans lesquelles les travailleurs ne sont que des soldats, des pions, que l'on dirige et qui n'ont finalement pas d'autre rôle à jouer que celui de masse de malheur, avant de rentrer sagement au travail quand les chefs syndicaux ont décidé que la partie était finie. Nous sommes conscients que le mouvement n'est pas pour l'instant explosif, mais les choses peuvent changer très vite et l'écœurement peut se transformer en colère. Dans ce cas, ce n'est pas vers les dirigeants syndicaux que les travailleurs devront se tourner. Leur stratégie, leur mode d'action, leur programme, leurs revendications, ils devront les définir eux-mêmes, démocratiquement, à la base, en reprenant l'habitude de se réunir, de discuter, de voter et d'élire leurs propres représentants en créant leurs propres organes de direction, des comités de lutte, des comités de grève. Dans les comités de grève, tous les combattants sont sur un pied d'égalité. Et c'est ce qui en fait un extraordinaire levier d'unification des travailleurs, faisant tomber toutes les divisions qui peuvent exister. Français contre immigrés, jeunes contre vieux, public contre privé, hommes contre femmes. Cette idée fondamentale d'organisation démocratique des travailleurs et de direction de leur propre lutte sera indispensable dans les luttes de demain. Parce que bien au-delà de la défense contre les attaques actuelles de la bourgeoisie, les travailleurs devront tôt ou tard se poser la question de changer le monde en renversant le capitalisme et de diriger eux-mêmes la société. C'est pour cela qu'en défendant cette idée d'organisation démocratique des travailleurs à la base, y compris dans les luttes embryonnaires et balbutiantes d'aujourd'hui, nous, à lutte ouvrière, nous défendons en réalité les idées communistes et révolutionnaires. Oui, il faut renverser ce système capitaliste qui nous conduit vers la barbarie. Ce système économique est en crise, une crise qui s'aggrave d'année en année. Pour tenir face à la concurrence sans pitié des autres, chaque capitaliste ne peut qu'aggraver encore et encore l'exploitation des travailleurs. Même dans les richissimes maisons de champagne, le patronat est à l'offensive, que ce soit chez LVMH, avec des centaines de suppressions d'emplois, ou encore dans le groupe Pernod Ricard, qui contrôle Moon et Perrier-Jouët. Cette rapacité des capitalistes s'appuie et reçoit le soutien de leurs États respectifs. Et en premier lieu, la bourgeoisie américaine reçoit l'aide de l'État américain. En déclarant la guerre commerciale au reste du monde, Trump ne défend pas les travailleurs américains, comme il ose le prétendre, mais la bourgeoisie américaine. Et il faut toute la duplicité des dirigeants syndicaux américains pour se féliciter du protectionnisme développé par Trump. Tant que les marchés n'étaient pas saturés et que de nouveaux remplaçaient les anciens, tant que la reconstruction de l'après-Seconde Guerre mondiale n'était pas achevée, la guerre commerciale n'avait pas la même intensité. Désormais, c'est l'embouteillage, ce qui exacerbe la guerre économique entre les multinationales et constitue pour elles une question de vie ou de mort. Les États européens sont dans l'incapacité de répondre, tant les intérêts des différentes bourgeoisies européennes qui composent l'Union européenne sont divergents, comme par exemple entre une Allemagne qui veut continuer à exporter ses voitures et la France ses produits de luxe. Cette guerre commerciale exacerbée conduit à la montée des tensions internationales. Si l'on entend parler souvent de l'Ukraine et de Gaza, il ne faut pas oublier de nombreux conflits en Afrique et les tensions internationales qui se multiplient. Ce qui se passe à Gaza, avec les destructions et le massacre de la population civile, est révoltant et montre à quel point le niveau de barbarie en est arrivé le système capitaliste. Car derrière la politique criminelle de Netanyahou, il y a les grandes puissances, avec en tête les États-Unis. Les deux précédentes guerres mondiales ont été précédées par de telles tensions. À chaque fois, on a assisté à une préparation des esprits et à un réarmement généralisé. C'est exactement ce que l'on constate aujourd'hui en France comme ailleurs dans le monde. En regardant le journal de France 2 samedi dernier, il y avait un reportage sur les avions de chasse russes, un autre sur les drones russes. Et le reportage qui suivait le journal était consacré à l'exploration scientifique de l'Arctique, mais sur un bateau de l'OTAN qui espionne les sous-marins russes. Tout cela en moins de 30 minutes. La Troisième Guerre mondiale n'est plus une hypothèse abstraite et lointaine. Trump, Xi Jinping, Macron et ses acolytes européens s'y projettent, et pas que dans leur tête, puisqu'ils s'arment tous à marche forcée. En France, le budget annuel de l'armée dépasse désormais les 50 milliards. Il a augmenté de 50% depuis 2017, et il devrait doubler d'ici 2035, pour atteindre l'objectif imposé par Trump à tous les pays de l'OTAN. 50 milliards donc pour la France, 80 milliards pour l'Allemagne, 300 pour la Chine. Et champion de toute catégorie, c'est près de 1 000 milliards de dollars par an pour les États-Unis. À l'échelle du monde, cela fait 2 700 milliards de dollars dépensés en avions de chasse, en sous-marins nucléaires, en drones, quand il suffirait de 15 milliards annuels pour éradiquer la malnutrition. Rien que mettre la moitié de ces 2700 milliards pour construire des routes, des dispensaires et lutter contre la sécheresse et le réchauffement climatique changerait la vie de milliards de femmes et d'hommes. Eh bien non. Les dirigeants de la planète planifient les prochaines guerres, les prochains massacres. Ils planifient une nouvelle plongée dans la barbarie. Cet été, les agences régionales de santé ont reçu une note leur donnant des instructions pour se préparer d'ici à mars 2026 à un possible engagement majeur, c'est-à-dire à la guerre, y compris sur le territoire national. Elles doivent être capables de créer des centres médicaux à côté des aéroports et des chemins de fer pour accueillir des blessés du retour des combats. Les hôpitaux doivent se préparer à prendre en charge entre 100 000 et 500 000 blessés sur une période de 10 à 80 jours. Les soignants doivent être prêts à cesser leur activité habituelle pour renforcer le secteur des armées. Voilà vers quoi se projettent les dirigeants de ce monde capitaliste. Nous sommes assis sur un immense baril de poudre qui peut exploser à tout moment. Et ne comptons pas sur ceux qui se posent en pacifistes pour l'éviter. Le Rassemblement national d'un côté, la France insoumise et le PCF de l'autre se disent pacifistes. Ils dénoncent la politique va-t-en-guerre de Macron. Ils en appellent à la diplomatie et au droit international en sachant très bien que la diplomatie et le droit international n'ont jamais empêché les guerres. Mais en se revendiquant tous du patriotisme, en vantant tous l'augmentation des budgets militaires, ils préparent aussi les esprits à la guerre. Il y a quelques jours, à propos de la querelle entre Dassault et Airbus pour savoir qui construira le prochain avion de chasse européen, Mélenchon a osé tweeter « Soutien à Dassault dans le refus de se mettre à la disposition de l'Allemagne pour produire l'avion du futur », ajoutant « Aucun accord industriel avec ce voisin ne fonctionne jamais. Priorité à l'indépendance et à la souveraineté pour se défendre. » Mélenchon a choisi son camp. Ce sera Dassault et donc la famille milliardaire du même nom qui vampirise depuis des décennies l'argent public pour produire des engins de guerre bleu, blanc, rouge et les vendre aux pires dictatures. Et il a participé, à sa petite échelle, à distiller l'idée que ce sont les étrangers, y compris les travailleurs étrangers, qui sont une menace pour nous. Oui, l'avenir est lourd de menaces, mais il nous reste des motifs d'espérer. Notre classe, celle des travailleurs, a montré par le passé qu'elle avait des réserves de combativité, que tout peut très vite changer dès lors qu'elle reprend le combat. Tant que le capitalisme existera, les guerres pour se partager les richesses entre bourgeoisie nationale seront inévitables. C'est pourquoi il faut l'abattre. Il faut retirer le pouvoir à cette bourgeoisie en expropriant ces parasites qui profitent du travail humain. La seule force capable de le faire est la classe qui produit toutes les richesses. Et cette classe ouvrière n'a jamais été aussi nombreuse et indispensable à la production à l'échelle du monde. Quel que soit le pays, les travailleurs subissent la même loi, celle de l'exploitation capitaliste. C'est un puissant levier, car la lutte de classe existe dans tous les pays. Voyez comment la mobilisation des jeunes au Népal a servi d'exemple aux jeunes de Madagascar, puis à ceux du Maroc. Les futures luttes des travailleurs seront tout aussi contagieuses. L'humanité ne se résignera pas à l'avenir qu'on lui dessine. Demain, les travailleurs, la jeunesse, retrouveront le chemin des luttes et la perspective des idées communistes et révolutionnaires. En attendant, ces idées communistes et révolutionnaires, il faut les maintenir vivantes. Pour cela, il faut qu'à chaque occasion qui nous est donnée, dans les discussions en famille, entre amis, au travail, nous ne manquons pas de défendre cet idéal. Il faut que nous saisissions chaque occasion pour déployer notre drapeau, le drapeau rouge. Les élections, où les travailleurs ont la possibilité de dire ce qu'ils pensent à défaut de changer leur sort, sont une de ces occasions. Nous aurons peut-être des législatives si Macron dissout une nouvelle fois l'Assemblée, et nous aurons les élections municipales en mars. Nous comptons bien être présents à chacune de ces élections. Et nous aurons besoin du concours de tous pour y parvenir. Alors, camarades et amis, vive le communisme, vive l'internationalisme, bonne fête à tous.